Bonjour, bienvenue dans l'Info C'est Clair. Nouvelle fusillade lundi soir à Marseille avec un blessé. Le trafic de drogue génère toujours plus de violence et ce y compris dans les villes dites moyennes. Comment juguler ce trafic meurtrier qui pourrit la vie de nos quartiers et la santé de nos enfants? L'Info C'est Clair est intitulé « Trafic de drogue, fusillade, l'État impuissant ». Nos invités, Damien Delceni, vous êtes rédacteur en chef adjoint du journal Le Parisien aujourd'hui en France. Vous êtes chef du service police-justice en une du Parisien aujourd'hui. Infirmière assassinée, l'hôpital en état de choc. Driss Aït Youssef, vous êtes docteur en droit public, spécialiste des questions de sécurité. Et Jérôme Piara, vous êtes journaliste, documentariste et écrivain, spécialiste du crime organisé. Je signale la réédition de votre livre à venir, Une histoire du milieu, c'est aux éditions La Manufacture. Merci de participer à cette émission en direct. Donc, nouvelle fusillade lundi soir à Marseille, mais les règlements de compte et les guerres de gangs s'invitent désormais dans tout le pays, et ce, y compris dans les villes qu'on croyait tranquilles. Vous voyez ce sujet de Nathalie Pérez, Éric Pelletier et Lara Péquez.
Règlement de compte à Cavaillon, coup de filet à Mersac, près d'Angoulême. Guérilla urbaine entre narcotrafiquants à Valence et des saisies records. Le trafic de drogue gagne du terrain et s'implante au fil des mois dans toutes les villes moyennes, partout, du nord au sud. Il existerait en France près de 4000 points de deal, selon le ministère de l'Intérieur. Des petites villes en apparence paisibles, où l'on assiste depuis plusieurs mois à des guérillas urbaines. Comme ici, au Creusot, l'hiver dernier, en pleine nuit, un homme mitraille la façade de ce bar tabac, fréquenté par des trafiquants de drogue. Le Havre, il y a un an. Des échanges de tirs entre narcotrafiquants et des policiers. En plein jour, au milieu des automobilistes, les trafiquants sont venus récupérer leurs marchandises qui vient d'être saisies. Des malfaiteurs prêts à tout pour la drogue. Pourquoi ces petites villes jusqu'ici épargnées sont-elles aujourd'hui gangrénées par le trafic ? Explication du directeur général de la police nationale.
La production mondiale de produits stupéfiants augmente régulièrement. Ces trafiquants-là cherchent évidemment à écouler leurs marchandises le plus possible et sur toute l'étendue du territoire national. Et donc on trouve dorénavant des points de deal à implanter dans des villes auxquelles, dans lesquelles nous n'étions pas habitués de les trouver.
Il y a quelques semaines, nous avions enquêté à Dijon. Aujourd'hui, des dealers viennent ici de toute la France, comme le confirme cette habitante qui vit juste au-dessus d'un point de deal où des trafiquants marseillais se sont installés.
Quand on se penche sur ce qui se passe à Marseille, on voit des fusillades partout. Il y a tout le temps ça. Alors qu'ici, à Chenin, non, il n'y a pas ça. Et depuis qu'ils sont là, ben, ça existe de plus en plus.
Le marché de la drogue ne cesse de s'étendre sur tout le territoire. 2022 a été une année record. Toutes drogues confondues, près de 66 tonnes ont été saisies. Et il ne s'agit là que de la partie émergée de l'iceberg.
Eh bien, Delcy, on a l'impression que c'est comme tous les business, quoi. Après avoir conquis les grandes villes, bah, ce business, ce deal de la drogue, s'implante maintenant dans les territoires, dans les villes moyennes, avant d'aller, pourquoi pas, demain dans les villages.
Ben parce qu'on se rapproche du client, ce qui est le principe d'une économie qui doit fonctionner, d'une restriction fonctionner. On se rapproche du client, on crée des filiales aussi, quand on voit... ces Marseillais qui s'installent à Dijon, mais on a plein d'exemples. On a aussi des gens de région parisienne qui...
On parlait de filiales, en fait, ce ne sont pas des trafics qui naissent spontanément.
Alors, ils naissent, mais il y a un savoir-faire. C'est-à-dire que quand on fait appel à des Marseillais pour venir à Dijon, quand ils viennent à Dijon, quand on fait appel à des gens de banlieue parisienne pour venir sécuriser des points de deal à Toulouse, comme ça s'est vu aussi, c'est parce qu'on sait que bah, ces gens-là, ils sont professionnalisés, ils savent faire, ils ont les bons réseaux, ils ont les bonnes connexions. Donc après, voilà, on étend son territoire le plus possible parce que, encore une fois, en bout de chaîne, il y a de la consommation, il y a des gens qui viennent acheter. Donc il n'y a aucune raison qu'on ne vienne pas s'installer à Chalon-sur-Saône. Il y a aussi une autre donnée dans ce trafic de stup depuis le confinement parce que c'est une économie qui s'adapte très très bien, en fait, à tout ce qui se passe. Et quand il y a eu le confinement, ils ont eu un problème parce qu'évidemment, on ne pouvait plus venir sur les points de deal physiquement. Bah, ils ont mis en place la livraison à domicile par scooter, une espèce d'ubérisation du trafic de stup. Et tout ça, ça fonctionne très bien parce que, c'est, encore une fois, c'est une économie qui s'affranchit de tout un tas de règles et de tout un tas de normes et qui va très vite pour s'adapter.
Jérôme Piara, ce qui est quand même nouveau... Alors, est-ce que c'est nouveau ? C'est la violence, le nombre de fusillades, y compris dans des villes moyennes, jusqu'au fin fond de la Meurthe-et-Moselle.
Parce que la banalisation, la démocratisation, le rayonnement des réseaux en province, etc., on le voit quand même depuis quelques années, ça. Mais en revanche... Le corollaire maintenant, c'est qu'effectivement, la violence qu'on trouvait que dans les grands centres urbains où il y avait des gros points de trafic, des groupes commerciaux, etc., et de la concurrence et des frottements, on les trouve à Villerupt, enfin dans des voilà, Angoulême, ouais. Dans d'autres villes. Donc ça c'est nouveau, mais ça c'est le corollaire, c'est-à-dire que ça suit la banalisation du trafic de stupes et les apparitions des armes, c'était il y a 15 ans dans les grandes villes. Donc il a fallu une petite quinzaine d'années pour que ces gens banalisent la pratique et qu'elle se démocratise entre guillemets, qu'elle arrive, voilà, mais en fait c'est monté en puissance, c'est pas une génération spontanée, hein. Ça fait 15 ans que les Kalachnikov sont sortis, en 2006 à Marseille, hein, les premiers règlements de compte à la Kalachnikov, donc il a fallu un peu de temps, voilà, pour que ça, il y a un effet copycat, mimétisme, banalisation, voilà, maintenant.
C'est pour s'affirmer qu'on montre ses armes lourdes, pour faire viril, ou bien pour s'en servir, malheureusement.
À l'origine, c'était pour faire viril, puisque pendant très longtemps, on en trouvait dans les saisies policières qui accompagnaient les stocks de stupes, on trouvait des armes de guerre, mais on voyait pas de règlement de compte. Les armes de guerre, elles sortaient sur les braquages de transport de fonds à la fin des années 90, début 2000. Et puis, il a fallu quelques années. Alors, on en saisissait. Les types se prenaient pour Tony Montana devant la glace de la salle de bain, voilà. En gros. Hein, voilà. Et puis, montraient aux copains en disant, regarde ce que j'ai dans la cave, tu vas voir le jour où. Et puis, le jour où est arrivé à partir de la fin des années, on va dire, 2000. Et puis là, on a commencé à se dire, finalement, on les a, pourquoi pas. Et puis, le premier qui l'a sorti, le deuxième s'est dit, le premier l'a sorti, pourquoi pas. Et puis, il y a un peu d'impunité, parce que faut rappeler que c'est des crimes qui sont très difficiles à endiguer, les règlements de compte. Donc, c'est fait partie des crimes qui sont les moins résolus, parce que c'est compliqué comme enquête, etc. Donc, il y a eu un petit sentiment aussi un peu d'impunité au départ, d'inconscience. Et puis voilà, maintenant, c'est parti boule de neige.
Alors, Driss Ait Youssef, pourquoi cette violence? Quel est l'enjeu de cette violence? Et quelle est malheureusement, est-ce qu'on peut dire que les victimes, il y a un point commun, comme les auteurs d'ailleurs, ce sont que des jeunes, on a l'impression.
Les jeunes, c'est vrai qu'il y a trois éléments. Le premier, effectivement, Damien l'a très, très, très justement indiqué, c'est-à-dire que le trafic de cocaïne ou de drogue, d'une manière générale, se rapproche des consommateurs. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on a aussi un phénomène, c'est-à-dire que les cartels colombiens, qui sont la plupart du temps les producteurs, ou en tout cas les expéditeurs, se rapprochent d'un marché lucratif. Et le marché européen, par conséquent, c'est devenu l'un des premiers marchés au monde. On voit bien que les saisies en France, en 2015, c'était à peu près, je crois, 10 tonnes de cocaïne. En 2022, c'est 27 tonnes de cocaïne, ce qui est énorme.
Alors ça veut dire quoi? Qu'on saisit plus ou que c'est simplement
il y a plus
le
de
trafic
consommateurs.
Qui augmente et donc
oui,
proportionnellement?
Il y a plus de consommateurs. Le nombre de consommateurs, je crois, en l'espace de 10 ans, a augmenté 200 000 consommateurs de cocaïne en France. Ça, ce sont des consommateurs réguliers. Je ne compte pas ceux qui consomment le cannabis, etc., etc. Donc vous avez mécaniquement, effectivement, plus de consommateurs en France. Vous avez un pouvoir d'achat qui est évidemment plus élevé et qui attise d'une certaine manière les convoitises. La violence ensuite, la violence, effectivement, elle s'exprime de parce que le marché lucratif, il y a de la violence, plus le marché lucratif, plus le point de deal est intéressant et plus la violence va s'exprimer. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, quand on regardait dans le reportage, on disait, mais il y a un dealer marseillais qui est monté du côté de Dijon, Chalon-Chante. C'est-à-dire qu'en fait, on a un lieu en France qui est un formidable incubateur pour le grand banditisme, c'est la prison. C'est-à-dire que les connexions se font aussi en prison. C'est-à-dire que lorsque vous avez, par exemple, un petit dealer qui est en prison et qui prend une peine de 2-3 ans de prison pour un trafiquant et qui va croiser un gros dealer marseillais, eh ben, ils vont faire ce qu'on appelle une alliance. Et donc, il va lui fournir de la cocaïne, du cannabis et aussi de la protection. Et c'est ça aussi le sujet. Sur les armes.
Ça interroge sur la prison qui, en fait, évidemment, est une école du trafic, à vous entendre.
Mais il n'y a rien qui se passe aujourd'hui qu'on ne sait pas depuis au moins une dizaine d'années. Ceux qui, aujourd'hui, qui tiennent le haut du pavé du trafic de stupéfiants, la nouvelle génération, la génération des quartiers qui, aujourd'hui, vont blanchir leur argent, mais parce qu'ils ont eu aussi accès en prison à des réseaux de blanchiment, à des réseaux qui fournissent aussi des armes. Parlons également des armes. Les armes à feu, on disait, effectivement, en 2006, c'était extraordinaire de sortir une Kalachnikov et tirer. Pourquoi aujourd'hui, c'est de plus en plus courant? Parce que c'est plus accessible et puis c'est moins cher.
Ça vient d'où ces Kalachnikovs? C'est de la guerre du Yougoslavie?
Mais alors, vous avez effectivement des stocks, vous avez aussi dans d'autres pays où ils arrivent à se procurer facilement aujourd'hui des armes à feu et pour beaucoup moins cher qu'en 2006 ou même en 2010. Et donc, vous avez toute cette conjoncture avec une génération qui n'est pas du tout la même génération que les parrains corses un peu à l'ancienne du grand banditisme, etc., qui faisaient quand même un peu attention. Aujourd'hui, on est dans l'expression plus récente de la violence dans toute sa splendeur. Et plus c'est violent, et plus ça fait peur, et plus ça fait peur, on est dans l'intimidation, et plus on récupère un point de deal.
Alors, vous le disiez, hein, au cœur de ce trafic, on a une nouvelle génération qui est jeune, et pour avoir une main docile, rien de tel qu'embaucher des jeunes qui sont déracinés, qui sont loin de chez eux et qui dès lors sont coupés de leur réseau, coupés de leur famille, coupés de leurs amis. Je vous propose de regarder ce reportage très fort tourné dans le cadre de l'œil du 20h de Lila Bellili et Laurent Desbois. Ça se passe dans les quartiers nord de Marseille. On regarde.
Une guerre qui nécessite une main-d'œuvre docile, avec des jeunes qui viennent parfois de très loin pour rejoindre le trafic à Marseille. Désormais, ils sont recrutés sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, aux allures de clips promotionnels, ils recherchent des guetteurs et vendeurs, vifs d'esprit et à l'affût, écrivent-ils. Sur certains forums de discussion, il y a également ce type d'annonce.
Cherche guetteur-vendeur, très très bien payé, logement compris.
Je prétends être intéressé. Je reçois une réponse en quelques secondes.
Y a part si tu viens, payé 180 euros, pas de guerre.
Le recruteur me promet 180 euros par jour, soit 10 ans sans danger, pour devenir guetteur. Et c'est ainsi, attiré par l'appât du gain, que sont recrutés de plus en plus de mineurs, originaires de toute la France. Ils se retrouvent à la merci des trafiquants. Comme l'a constaté cet éducateur, qui sillonne les quartiers nord de Marseille depuis plus de 10 ans.
C'est un quartier qui est difficile. Il y a eu pas mal de jeunes qui se sont fait tuer dans ce quartier-là.
Selon lui, les réseaux préfèrent avoir recours aux petites mains, pas originaires de Marseille, car sans attache, ils se retrouvent entièrement dépendants des trafiquants.
Quand on n'est pas issu de la ville, on ne connaît personne. Quand on est de Marseille, forcément, il a de la famille, il a des grands frères. Quand on veut s'en prendre à lui, les gens ils réfléchissent ça deux fois. Mais quand le jeune n'est pas de la ville, demain, même si on va s'en prendre à lui, qui c'est qui va venir le défendre? Personne.
C'est ce qui est arrivé à ce jeune homme. Menacé et accusé d'appartenir à un clan rival. La vidéo a été diffusée par les trafiquants eux-mêmes.
Je travaille pour qui ?
Il dit ne pas savoir.
Et d'où ?
Et être originaire d'une autre région.
Tu as choisi le mauvais camp ? Je te dis, bienvenue à Guantanamo, fils de...
Dans la suite de la vidéo, l'adolescent est déshabillé et molesté. La violence a atteint un tel niveau que le tribunal pour enfants de Marseille sonne l'alerte publiquement. Ce juge affirme que 40% des mineurs arrêtés pour trafic de drogue ne sont pas originaires de la ville.
C'est du trafic d'êtres humains. On abuse de leur pauvreté, ils sont logés dans des hôtels de fortune et ils travaillent pour certains de 10h à minuit. Ils ont vraiment une main-d'œuvre à disposition qui dépend totalement d'eux.
Ces pauvres jeunes là qui répondent à ces petites annonces, on est vraiment dans du business. Hein. Elles le font parce qu'elles croient au miroir aux alouettes, parce qu'elles se disent tiens, c'est l'occasion de gagner beaucoup d'argent rapidement, facilement, ou c'est parce qu'elles n'ont d'autre horizon que le trafic, au fond. Et ça ne viendrait pas à l'idée, il n'y a pas de schéma mental pour faire autre chose que de baigner dans ce trafic dans lequel baigne malheureusement aujourd'hui une partie de nos quartiers.
Ça dépend des profils, mais effectivement, quand on s'adresse, il y a eu une affaire il n'y a pas très longtemps à Marseille où on a carrément retrouvé des personnes en situation irrégulière, c'est-à-dire des clandestins qui étaient recrutés et hébergés et traités dans des conditions qui peuvent même rappeler de l'esclavage, comme on en voit dans d'autres économies, c'est-à-dire où on exploite la misère humaine, la fragilité, etc. Après, il y a tous les profils, il y a ceux aussi qui quelque part épouse cette carrière aussi parce que ça rapporte de l'argent aussi très vite. On voyait 180 euros promis par jour. C'est toujours plus qu'une mission d'intérim. Et voilà. Et après, une fois qu'on a mis le doigt là-dedans, on a en plus une perspective de peut-être un jour pouvoir évoluer, passer de guetteur à autre chose. Donc effectivement, c'est, encore une fois, tout fonctionne exactement comme une économie et comme un business légal, sauf que celui-là est complètement illégal. Et donc, avec exactement les mêmes codes, en réalité.
Jérôme Pierrat, mais c'est une carrière où... On peut faire carrière dans le trafic.
Il y en a sur tout ça.
Ou est-ce qu'il y en a beaucoup qui, comme ces pauvres jeunes, se terminent tabassés au fond d'une cave et disent « Oh mon Dieu !» et regrettent.
Que ce soit clair, 99% des gens qui s'activent dans ces réseaux sont des smicards du trafic. Hein. C'est des gens qui ne feront jamais fortune, ne feront pas carrière. Il y en a un qui fait carrière. C'est pyramidal, le trafic de stupes. C'est du capitalisme sauvage. Hein. C'est pas une ONG. Donc, il y a un type en haut qui prend 90% des profits. On distribue quelques miettes, quelques billets, 180 euros. C'est déjà très, très bien payé. Normalement, c'est 50 euros la demi-journée, en gros, à Marseille actuellement. Donc, oui, ça attire une main-d'œuvre facile parce qu'ils ont l'impression qu'en plus, le travail n'est pas compliqué. Vous asseyez sur une chaise, vous criez ara quand la police arrive. Donc, le boulot, on lui lui-même est pas très compliqué, ça permet de gagner un peu d'argent, sauf que maintenant il y a la dimension violente, c'est-à-dire que ces gens-là sont devenus les premières cibles de ces guerres des gangs. Avant on tapait sur les caïds, il y a 10 ans, les caïds sont partis à l'étranger, la violence est descendue dans la hiérarchie, et aujourd'hui la technique c'est l'intimidation.
La cible des Kalachnikov, ce sont ces petites mains.
Évidemment, c'est pour ça que les victimes ont 15-16 ans, c'est pas parce que les types se sont dit on est psychopathe, on va viser que des jeunes. Bah parce que on peut plus toucher les grosses cibles.
Non, mais qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à prendre un point de deal, un règlement de compte, c'est quoi?
On cherche à se venger, à intimider, à virer les gens du terrain, comme on appelle ça, hein, un terrain, le point de vente, à le récupérer, voilà, à le déstabiliser, à le supprimer aussi parce qu'il est concurrentiel peut-être d'une autre, etc., etc. Donc on y va, c'est une espèce de technique à la sud-américaine. On tire dans le tas, peu importe qui est là. L'idée, c'est de se... Alors, ça aussi, il y a une évolution. Hein. Il y a 3 ans, vous avez des fantasias. On rentrait dans la cité, on tirait en l'air, on visait les façades. On se contentait de ça. Maintenant, on vise carrément les ouvriers qui travaillent. C'est pour ça que l'âge des victimes a considérablement baissé. C'est pas qu'ils ont une envie de tuer des mineurs de 15 ans. C'est que les seuls qui sont sur le terrain, ils ont 15-16 ans. Il y a les types de 25 ans ne vendent pas du shit au pied d'un immeuble.
Damien Delceni, donc voilà, la Kalachnikov, c'est pour gagner par la force des parts de marché.
C'est une arme de guerre qui est utilisée pour faire la guerre. Jusque-là, tout est à peu près logique. Alors, on parlait tout à l'heure de la Kalachnikov. Pourquoi la Kalachnikov ou pourquoi les fusils mitrailleurs? Ça permet aussi une chose, c'est que c'est des armes qui sont extrêmement létales et à des distances plutôt... On n'est pas obligé de se rapprocher trop près, en fait. On peut baisser le carreau d'une voiture, on vide un chargeur, on rafale, et à plusieurs dizaines de mètres, on fait des dégâts considérables. Donc, c'est un côté à la fois pour montrer sa force. On détient des armes de guerre, donc on est quelque chose, un réseau ou une équipe qui pèse. Et en plus, ça fait des dégâts terribles, parce qu'on parle des morts, mais il y a tous ces blessés. Les balles de Kalachnikov, on l'a vu avec, malheureusement, avec les attentats de 2015, les dégâts que ça peut procurer, même quand ça arrive dans une jambe ou ailleurs. Donc, il y a tout ça représente.
Mais après, il y a représailles ou après, il y a gain du territoire et on peut y installer son deal une fois qu'on l'a nettoyé.
Ça dépend de la force de l'équipe. Ah ouais. Mais on est sur une guerre, donc on élimine les soldats de l'adversaire, de l'ennemi, effectivement, pour gagner du terrain et pour aussi envoyer des messages de terreur. Quand on commence à arroser comme ça, un peu au hasard, même complètement au hasard, il y a quand même eu aussi un virage ces dernières semaines à Marseille. Il y a eu 2 personnes, un homme et une femme, qui ont été tués et qui, alors, eux, pour le coup, n'ont strictement rien à voir avec le trafic.
Monsieur de 65 ans.
Voilà, enfin, monsieur de 5 ans, une mère de famille qui est au volant de sa voiture. Là, c'est quand même, on passe encore un seuil, parce qu'avant, on disait, bon, c'est le mauvais endroit, mais au moment, enfin, c'était quand même toujours des gens qui traînaient sur des points de deal. Là, on a clairement 2 personnes qui n'ont rien à voir avec ça. Ça veut dire qu'on on tue au hasard pour terroriser. C'est une forme de logique de terreur, en fait, qu'ils sont en train de mettre.
Driss Aït-Youssef, on a l'impression d'un sentiment d'impunité. On arrose à la Kalachnikov, on fait quand même de la traite humaine. Enfin, ces pauvres enfants qu'on fait venir de loin, vous parliez d'esclavagisme, ça ressemble vraiment à ça, qu'on maintient sous la terreur. On est obligé d'agir en répression, on ne peut pas agir en amont, essayer de dissuader certains de rentrer là-dedans en disant « mais voilà ce qui vaut de la carrière qui nous attend ».
Il y a plusieurs phénomènes. D'abord, le premier, c'est cette jeunesse, jeune, très jeune, trop jeune pour rentrer dans un trafic, et s'il y avait un âge pour rentrer dans le trafic. Et au fait, il faut quand même avoir à l'esprit, nous on voit cette annonce, on dit « mais c'est du grand n'importe quoi ». Bah, vous avez un certain nombre de jeunes qui tombent dedans, parce qu'effectivement, soit l'argent facile, et le niveau intellectuel de ces jeunes, peu ou pas diplômés, voire pas diplômés du tout, décérébrés pour un certain nombre d'entre eux, si c'est pas dire désocialisés, c'est tomber tout de suite dans le jeu de l'argent facile. Alors cet argent facile, il n'est pas aussi facile que ça, parce que c'est très dangereux. Lorsque vous êtes guetteur, et que vous touchez 50 euros par demi-journée ou 110 euros par jour, et que, sans faire exprès, moment dit d'inattention, il y a une patrouille de police qui passe avec une arrestation et un dealer qui se fait confisquer sa sacoche. Je peux vous assurer que le guetteur, il va passer un très mauvais moment.
Il va être passé à tabac au fond d'une cave.
Passé à tabac, mais vous n'avez pas idée. Mais passé à tabac. C'est-à-dire qu'on a des gamins qui sont mutilés parce qu'ils ont fait preuve d'inattention. Donc c'est un métier qui est extrêmement dangereux. Après, sur la question et à la prévention, c'est évidemment la bonne question. À plusieurs reprises, on a indiqué que le ministre de l'Intérieur, évidemment, il y a des choses, il y a des moyens qui sont déployés à Marseille, il y a beaucoup de moyens. Mais le ministre de l'Intérieur, qui croit qu'à lui seul, il va pouvoir endiguer ce soit le terrorisme ou la délinquance en France, c'est un ministre de l'Intérieur qui a déjà perdu avant même de prendre ses fonctions. Cette question, notamment liée à la jeunesse, qui est une jeunesse qui est complètement déscolarisée, qui ne trouve pas sa place dans la société, c'est un sujet de prévention, d'éducation. Combien on a vu ce reportage, le tribunal, le procureur ou le juge pour enfants dire « mais attendez, j'ai un flux de gamins, je ne sais pas gérer ». Vous avez une quantité d'articles de vos confrères qui indiquent que le tribunal pour enfants à Marseille ne sait plus gérer ce flux de gamins qui arrivent et qu'il faut traiter, qu'il faut tantôt placer, qu'il faut tantôt accompagner, puis qu'il faut quelquefois emprisonner parce que les faits sont graves. Et alors ça va où ? C'est-à-dire qu'au fait, on n'est qu'au début. Le flux de gamins disponibles pour alimenter ce trafic, il est considérable. La moyenne d'âge aujourd'hui, gamin à la fois auteur et victime, c'est entre 21 et 22 ans. C'est-à-dire que c'est de plus en plus jeune. Effectivement, ça a été dit très justement pour qu'on ne vise plus les caïds, bah parce que les caïds, ils ne sont plus en France, ils sont dans un certain nombre de pays à gérer leur trafic. Et au fait, on a affaire à une espèce de spoil system un peu à l'américaine. Je viens, je rase tout un réseau et j'installe le mien. Mais les clients, ils sont là, ils reviendront le lendemain. C'est un peu ça aujourd'hui ce qui est en jeu. C'est cette violence qu'on n'arrive pas à endiguer parce que la réponse politique, elle est omnicanale. Alors qu'il faut avoir plusieurs flux. La PJJ, mais combien de fois on n'a pas dit le service pénitentiaire d'insertion et de probation ? Pas de moyens, l'administration judiciaire, enfin vous avez l'autorité judiciaire et la justice judiciaire, l'administration pénitentiaire, pas de moyens, vous regardez, on a rénové les baumettes, ben, c'est déjà très plein, débordé, enfin ils sont débordés à craquer. Donc la réponse, elle n'est pas adaptée. Oui, il y a des moyens, mais ce n'est pas la seule réponse qu'il faut apporter à ce phénomène, qui est un phénomène récurrent et qui s'aggrave de plus en plus.
Et la réponse, si c'est la prévention, c'est le temps long. On imagine que
évidemment,
c'est à l'échelle de génération qu'on arrive à restaurer une école qui fonctionne et qui est capable...
Et malheureusement, le temps du politique, c'est un temps extrêmement court.
Ouais. Exactement. Alors, vous le disiez, les têtes de réseau ne sont plus installées en France. Elles sont parfois à Dubaï. Et depuis Dubaï, elles commandent depuis leur canapé des règlements de compte et elles embauchent pour cela parfois ce qu'on appelle de véritables tueurs à gages. Hein, employons les mots. Ils ont parfois 18 ans. C'est le cas à Marseille de Matteo F. Vous voyez ce reportage et témoignage exceptionnel recueilli par Thomas Cuny, Jérôme Laurent Kaizen et notre bureau de Marseille.
Près d'une supérette marseillaise, deux hommes dans la nuit. Soudain, l'un d'eux sort une arme et ouvre le feu à bout portant. Nous avons choisi de ne pas diffuser ces images. Les faits remontent à mars dernier. La victime âgée de 22 ans n'a pas survécu. Le tireur, lui, prend la fuite dans ce véhicule, conduit par un complice. Autre fusillade quelques jours plus tard. Deux adolescents de 15 et 16 ans sont abattus en pleine rue. Derrière ces assassinats, la police soupçonne un homme, Matteo F., tueur à gages. Il n'a que 18 ans. Et dans une vidéo glaçante qui a circulé sur des messageries cryptées, il plaisante sans remords de ce qu'il appelle des contrats.
Je vais enchaîner les contrats, frérot, je vais redescendre. Sur la vie de ma mère, je me suis en train de m'envoyer sur un contrat, je suis en train de rigoler, la vie de ma mère.
Le jeune homme serait un membre du clan DZ Mafia, réputé pour régner sur une partie du trafic de drogue dans la cité phocéenne. Sur les réseaux sociaux, ils exhibent notamment ces armes de guerre, par dizaines. Objectif, impressionner les autres gangs, en mettant en scène leurs actions violentes, comme ici. Des coups de feu sur un commerce. Ils se livrent une bataille sanglante depuis des mois et font désormais appel à des tueurs professionnels.
On arme des tueurs à gages pour aller tuer le concurrent ou impressionner ses proches. On a parfois des très jeunes personnes qui sont recrutées parfois sur les réseaux sociaux, qui sont recrutées pour être tueurs à gages et pour aller tuer des cibles qu'on leur désigne.
Matteo F. a finalement été arrêté, mais d'autres seraient présents dans la deuxième ville de France, attirés par des gains de plusieurs milliers d'euros.
Aujourd'hui, on a de plus en plus de tueurs à gages qui viennent sur l'agglomération de Marseille pour essayer effectivement donc, de prendre part à cette guerre de narcotrafic à Marseille, sachant que les sommes dantesques sont générées par ces narcotrafics à Marseille. Un point de deal à Marseille, c'est entre 30 000 et 90 000 euros par jour de chiffre d'affaires.
Depuis le début de l'année, 21 morts violentes ont été dénombrées à Marseille.
Jérôme Pierrat, c'est vrai qu'on a vu ce Matteo F, là, ce tueur à gages fanfaronné, exhibant ses armes. Vous parliez tout à l'heure de jouer à Scarface. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a un peu cette fascination morbide pour les armes qui nous vient des gangs américains.
Oui, oui.
Et on a l'impression qu'il se plaît,
la culture narco, les sicarios, voilà. Enfin, c'est très à la mode, hein, les gangs, les cartels colombiens, mexicains, dont on a. Donc, de toute façon, les voyous sont toujours nourris de la culture populaire de gangsters. Hein. Les anciens, ils regardaient Jean Gabin, Lino Ventura et les films en noir et blanc tirés des livres de Simonin. Bah, aujourd'hui, ils regardent Narcos. Donc forcément, ça, ils s'imbibent aussi de ça. Ils sont biberonnés à cette culture-là. Il faut pas rêver. Il y a un jeu de miroir entre ces populations. Donc effectivement,
Narcos, la série fascine. Et presque, on les prend pour des modèles.
Bah, en tout cas, on en emploie les techniques. Donc,
On
commence à avoir des gens démembrés à Marseille dans des coffres, etc. Donc, ça, c'est ce qu'on trouve plutôt dans le Sinaloa mexicain ou à la frontière américaine. Donc, effectivement, on s'aperçoit qu'il y a des types qui commencent. Mais je vous dis, il y a toujours eu un jeu de fascination entre le cinéma, cette culture gangster et la population délinquante. Mais Après, il y a les histoires de tueurs à gages, c'est assez nouveau et c'est propre à ce narco-banditisme aussi, parce qu'on a affaire à des gens qui sont finalement... Là, il y a un truc
lui, sémantique. Lui, il a un contrat.
Il y a un truc un peu sémantique délicat, mais ce ne sont pas des voyous. Les voyous, ils réglaient leurs problèmes eux-mêmes. D'ailleurs, les équipes de voyous classiques, ils montaient sur la moto, le 11-43, on allait tuer le concurrent. Ça pouvait même être l'espèce de chef de gang qu'il faisait lui-même. Il n'y avait pas où le type qui avait les meilleures dispositions au sein de l'équipe pour aller le faire. Mais on n'appelait pas à d'autres gens. Ça n'existait pas, ce phénomène. Ça, c'est un truc propre aux narcomantistes, parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Et ce sont souvent, ils sont à l'étranger, ce sont souvent des profils de commerçants. Commerçants illégaux, mais de commerçants. Donc, ils vont pas se mouiller eux-mêmes, d'où cette nouvelle génération de spécialités.
Alors, c'est vrai que Damien Delceni, le donneur d'ordre, qui est-il ? Donc, il prend son téléphone depuis Dubaï, presque sans affect, il recrute un donneur d'ordre. Qui sont-ils, ces donneurs d'ordre, qui, dit-on, sont installés ? Peut-être pas qu'à Dubaï, je ne sais pas pourquoi on dit Dubaï.
Oui.
D'où viennent-ils ?
Là, en l'occurrence, les Marseillais ne sont pas à Dubaï. Ceux qui se tirent dessus en ce moment, ils ne sont pas à Dubaï.
Ceux qui sont à Dubaï ont quelques soucis récemment, parce que Dubaï est devenu un peu moins accueillant, un peu plus regardant sur un certain nombre de profils. Mais après, ils peuvent, de toute façon, ils
découvrent. Ce sont des locaux du CRU qui, pour échapper à la justice, s'installent dans des, alors j'allais dire des paradis fiscaux, dans des paradis narcos.
Pas qu'à la justice.
C'est pas qu'à la justice.
Ils échappent aussi à leurs concurrents.
C'est plutôt à ça qu'ils veulent échapper.
Oui, la justice, ils savent qu'un jour ou l'autre, elle peut les retrouver à peu près n'importe où, mais ils échappent surtout à une forme d'insécurité locale. Et puis, les moyens techniques modernes aujourd'hui, un ordinateur, un téléphone, pouvaient être à Dubaï, faire bouger des containers, faire bouger des camions. Vous n'avez pas besoin d'être à Marseille, au cœur de la cité, pour vérifier que les livraisons arrivent. Encore une fois, si vous avez du personnel sur place, c'est toujours le système. Les tueurs à gages, c'est rien d'autre que des sous-traitants en réalité pour eux, c'est-à-dire comme une entreprise normale. On a une prestation à faire, pas la faire nous-mêmes, on va faire appel à des sous-traitants qu'on va payer, ces sous-traitants-là, ils acceptent, ils payent, ils font une prestation, et voilà, c'est réglé. Le discours que tient ce Matteo, y compris devant les policiers et sur certaines vidéos, c'est vraiment ça, c'est-à-dire on l'appelait, il était à Gardanne, c'était pas un habitant de Marseille. D'ailleurs, on lui avait interdit de venir à Marseille en dehors des contrats, c'est-à-dire on lui avait dit, toi, tu restes là où tu es. On l'appelait, on lui disait, voilà, telle voiture, tel endroit, il y a une arme dedans. Tu vas faire ton contrat, tu te filmes, parce que nous, on a envie de savoir si c'est vraiment toi qui a effectué le contrat pour te payer. Donc, tu te filmes, et puis après, voilà, on te paye. Donc, on est vraiment dans des logiques...
Une manière de le tenir.
Voilà, c'est une manière de le tenir aussi.
Ah, il a la vidéo, ils ont la vidéo.
Et voilà, donc on est sur des techniques comme ça. Alors, évidemment, les patrons, ils se mouillent. Et c'est vrai qu'on disait, il y a un changement de génération. Avant, c'était même presque obligatoire pour être un chef d'équipe de monter sur un règlement de compte. C'est-à-dire qu'on montrait qu'on n'avait pas peur... qu'on allait régler ses comptes soi-même. Voilà. Aujourd'hui, on est passé dans un truc totalement différent. Il n'est pas question pour les gens qui dirigent le trafic en stup d'aller eux-mêmes mettre une
caisse. Ils sont en col blanc.
Alors, en col blanc,
peut-être pas. Ils ont toujours le même survêt, un peu plus chic, mais...
Voilà. Ils ont des survêts de marque, mais par contre, c'est des chefs d'entreprise, en fait. D'entreprise. Donc, ils font le business, ils l'organisent. Ils ont aussi une fonction, c'est-à-dire que il faut faire de l'importation. Alors quand on fait de l'importation de résine, il faut avoir des liens au Maroc avec les producteurs pour faire casser les prix, pour faire des livraisons groupées. Quand on commence à travailler sur la cocaïne, il faut travailler avec des Sud-Américains, c'est pas très facile. Donc eux, leur métier, c'est ça, c'est d'organiser comme une multinationale ce qui se passe tout en haut. Après, les basses besognes d'en bas, on paye des gens pour le faire, ils le font très bien.
Le problème, c'est qu'ils sont parfois rattrapés là en ce moment. Si vous regardez la presse étrangère, vous trouverez des conflits dans d'autres pays du Maghreb et qui sont liés à ceux de Mars. Les boss commencent à se tirer dessus.
Ah oui ?
Dans les pays où ils sont abrités. C'est le cas qui est arrivé ce week-end. Ce n'est pas sorti dans la presse française, mais ce qui est arrivé ce week-end.
Au Maroc, il y a des règlements de compte entre bandes
rivales. Oui, il y a les gens qui sont là, en l'occurrence, nos protagonistes marseillais se sont retrouvés
à Marseille.
Là où ils sont. Et maintenant, on commence à envoyer des gens pour essayer de les retrouver là-bas.
Driss Ait Youssef, quelle perspective là, pour ce Matteo F qui se montre fièrement en tant que tueur à gages ou monter dans la violence, ou bien se prendre à son tour lui-même.
C'est sûr que pour le Matteo, à la fois d'un point de vue judiciaire et puis d'un point de vue extrajudiciaire, il faut qu'on considère que c'est terminé, puisque il ira certainement, s'il était condamné, en prison, mais pour longtemps. Et puis, si par extraordinaire, il était amené à sortir de prison ou même en prison, il pourrait évidemment faire l'objet de ce qu'on appelle de représailles de la part du clan adverse. Donc, il est aussi là le sujet. Et il y a peut-être un élément qu'il faut ajouter, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les trafiquants, ceux qui sont en haut de la pyramide, leur niveau de vie en France, dans un quartier, n'est pas le même qu'en Espagne, au Portugal, Amérique latine. Ce n'est pas le même niveau de vie. C'est-à-dire que la tête d'un réseau dans une banlieue, dans sa cité, c'est d'une grande précarité. Hein. C'est pas, il n'est pas en Rolls-Royce en bas, alors que quand il gère ses investissements ailleurs, hein, il gère ses investissements, ses placements, il vit plutôt bien.
Dans une villa cossue. Ah,
mais oui, mais absolument, bien sûr.
On parle de millions d'euros.
Mais bien sûr, on parle de... Bien sûr. Donc, il faut qu'il passe un peu inaperçu, donc il rase les murs pour pas être pris à partie par ses concurrents, etc. Et le fait de passer quelquefois par des sous-traitants, des sicaires, on va appeler ça comme ça, des tueurs à gages, qui sont peu ou pas connectés avec le réseau, ça leur permet de brouiller aussi les cartes. Parce que dans les règlements de compte, par exemple, à Marseille, c'était assez facile de remonter la trace, parce que c'était le cousin, le neveu qui vengeait son frère, son grand frère, son oncle assassiné, 5-6 ans. Donc c'était facile de remonter. Aujourd'hui, ça brouille un peu les pistes. C'est pas celui qui est tout en haut, qui appelle avec un WhatsApp ou avec un Telegram ou une messagerie cryptée, qui dit « tiens, tu vas me l'assassiner ». Non, non, c'est plus comme ça que ça marche. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui, vous avez des fusibles qui permettent de ne pas remonter jusqu'au donneur d'ordre. Donc c'est ça aussi, la mise en scène de la violence, elle passe par là. Et enfin, ces jeunes qu'on comprend. En fait, j'ai tendance quelquefois pas à les comparer à des sicaires parce que vous avez des sicaires qui sont extrêmement bien formés, qui sont très discrets et qui passent plutôt bien. Vous avez aussi beaucoup de violence en Amérique latine, mais là, on a affaire à une génération qui est dans l'expression plus pure dans la violence. Le gamin qui a 18 ans, là, se fait une vidéo en disant « c'était super, l'ivresse de la violence », au fait, ils sont plutôt passés à autre chose de... Voilà, c'est quand même... Et ça tire n'importe comment. C'est-à-dire que c'est ça aussi, quand on dit qu'il y a des victimes un peu collatérales, il y a des balles perdues, ça fait peur à la population, c'est vrai. C'est parce que c'est aussi une génération qui est dans une expression de la violence, sans aucune formation, sans rien du tout. Le maniement des armes, c'est pas leur truc. Et puis en plus, la Kalachnikov, c'est une arme de guerre qui est réputée pour tout sauf être précis. Donc une balle de 7,62 lorsqu'elle passe... Enfin, ils tirent pas avec un viseur et en étant extrêmement précis. Ça rafale de partout. C'est pour ça que vous avez effectivement des victimes collatérales. Donc il faut bien aussi avoir à l'esprit que cette génération est une génération extrêmement dangereuse pour elle et puis pour les habitants également. C'est pour ça que c'est un vrai sujet d'ordre et de sécurité publique.
Alors, on parle de montée de la violence dans les réseaux. Il faut savoir que les Pays-Bas et la Belgique sont, eux, exposés à des méthodes encore plus violentes, directement inspirées d'ailleurs des méthodes des cartels en Amérique du Sud. Je veux parler d'assassinats de personnes publiques, d'enlèvements. En fait, ça s'appelle la Mocro-Mafia. Donc, c'est la mafia qui nous vient, une mafia marocaine qui fait trembler les Pays-Bas et la Belgique. Je vous propose de voir ce sujet de Julien Gasparuto qui date du 30 octobre dernier.
C'était il y a un an, les mois aux Pays-Bas. Le journaliste d'investigation Peter De Vries était assassiné en pleine rue. Un meurtre en représailles à ses enquêtes sur la mafia de la drogue. Ces assassins sont aujourd'hui jugés à Amsterdam. Un procès sous très haute surveillance. L'avocat de la famille du journaliste craint lui aussi pour sa vie.
Je figure moi-même sur la liste des personnes à assassiner. Et j'espère que ça n'arrivera pas.
Derrière ces crimes, la Mocro-Mafia, une organisation dirigée par des familles marocaines aux Pays-Bas, qui se servent du port de Rotterdam pour importer la drogue en Europe. Une mafia devenue si importante qu'elle a même inspiré une série télévisée. Meurtre, torture, enlèvement, une fiction très conforme à la réalité. Sander Janssen est avocat. Il défend des gangs rivaux depuis une dizaine d'années et il n'a jamais vu un tel déchaînement de violence.
Pour la première fois, ils ont franchi des barrières. Tuer des avocats, des journalistes, tuer des membres de la famille de témoins, c'est quelque chose que je n'avais jamais vu avant aux Pays-Bas.
À la tête de cette Mocro-Mafia, Ridouane Taghi, longtemps considéré comme l'un des hommes les plus dangereux d'Europe, il a été arrêté à Dubaï en 2019. Derrière les murs de sa prison néerlandaise, il continue de tirer les ficelles. Et pour négocier sa libération, il s'en prend désormais à des personnalités de premier plan. Sa dernière cible, la princesse Amalia des Pays-Bas. Menacée de mort et d'enlèvement, celle qui vivait comme n'importe quelle étudiante a dû retourner vivre au palais royal sous protection policière. Un choc dans tout le royaume, la menace est prise au sérieux.
Je peux vous assurer que toutes les personnes impliquées dans la surveillance font tout ce qui est en leur pouvoir pour s'assurer qu'elles restent en sécurité.
Le Premier ministre est d'autant plus préoccupé qu'il est lui-même dans le viseur de la mafia. Celui qu'on surnommait Monsieur Normal a dû renoncer aux balades en vélo, en solitaire. En Belgique, l'autre porte d'entrée de la drogue en Europe,
c'est le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborn qui a échappé de peu à une tentative d'enlèvement. Quatre Néerlandais proches de la mafia ont été arrêtés. Au palais de justice de Bruxelles, Michel Claes est amer. Ce juge d'instruction spécialisé dans la lutte contre la criminalité alerte depuis des années sur le pouvoir grandissant des trafiquants.
Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui la situation vous échappe ?
Elle nous a échappé depuis des années. Sur le plan réellement de l'impact qu'elle a en termes de société. Mais quand vous avez un trésor de guerre de plusieurs milliards d'euros, le pouvoir est immense, il est absolu.
Face aux milliards d'euros de la mafia, les moyens de la justice et de la police semblent en effet dérisoires, avec un risque majeur de déstabilisation du pouvoir, en Belgique comme aux Pays-Bas.
Jérôme Pirala, on voit que ce ne sont plus des quartiers, mais c'est l'État qui est menacé. Quand on voit ce chef de gang, depuis sa prison, être capable de mettre en danger la famille royale des Pays-Bas, voire le Premier ministre des Pays-Bas, alors que le type est en prison aux Pays-Bas.
C'est un petit air de Sud-Amérique, oui.
Sud-Amérique.
Non, effectivement, il y a une situation qui a... Alors, eux, ils n'ont pas de chance, ils ont les deux plus gros ports, enfin, les deux plus gros ports et de portes d'entrée de la cocaïne en Europe, avec effectivement un marché qui génère des centaines, des millions, des milliards.
Dans des pays très libéraux, hein.
Avec des pays qui, effectivement, on ne va pas leur jeter la pierre, mais qui ont laissé un peu faire depuis des années, notamment la Hollande, etc. On ne parle pas des coffee shops, hein, ce genre de choses, mais une politique globale policière, judiciaire, qui n'était pas très soutenue, hein, pas très répressive, etc. Où on se dit, bon, finalement, ça passe par chez nous, mais ça part ailleurs. Bon, il n'y a pas vraiment d'impact. Donc, bon, on va un peu fermer les yeux. Bah, voilà, effectivement, en fermant les yeux au fil des années. Donc là, oui, on a un autre niveau. C'est parce que là, on importe, c'est des containers, c'est des tonnes de coke, etc. Donc, c'est des millions d'euros par bateau, par container. On n'est plus dans du deal de barrette, même à 80 000 euros la journée. Donc, la violence, elle est proportionnelle aux enjeux financiers.
Et chez nous, Damien Delceni, est-ce qu'on est menacé un jour de voir ces mafias avec des méthodes sud-américaines venir s'implanter sur nos ports ? Est-ce qu'il y a des tentatives ?
Oui, il y a déjà des petits signaux faibles, comme on dit. Après, le principe d'une mafia, presque la définition d'une mafia, c'est quand un groupe criminel commence à un petit peu infuser dans l'économie légale ou en tout cas mettre la main sur un certain nombre de choses. En France,
à corrompre des politiques,
en France, des chefs
de port.
Vous avez des quartiers, pas que à Marseille d'ailleurs, en région parisienne aussi, vous avez des quartiers, vous avez des équipes qui, d'abord pour blanchir de l'argent aussi, parce qu'il faut à un moment donné blanchir tout ce qu'on gagne, commencent à se mettre dans les marchés de sécurité, font des pressions sur, en Seine-Saint-Denis, il y en a eu des exemples de pressions sur des sociétés de bâtiments par exemple, c'est-à-dire que on impose un certain nombre de choses à une société qui vient faire des travaux dans le quartier, d'embaucher un tel ou un tel, de donner le marché de sécurité à telle société, pas telle autre, parce que les trafiquants de stupes, quand ils commencent à avoir un certain niveau, et parce qu'ils ne sont pas complètement idiots, ils créent des sociétés qui sont dans l'économie légale, parce qu'encore une fois, il faut blanchir cet argent-là, ils ont beaucoup d'argent, il faut en faire quelque chose. Donc une fois qu'on commence à rentrer dans le blanchiment un peu organisé, que les trafiquants de stupes commencent à se diversifier et à avoir des activités qui peuvent être, encore une fois, de la sécurité au bâtiment, etc., oui, il y a un risque, en tout cas, il y a des premiers signaux que... Il faut être assez vigilant là-dessus. On n'en est pas encore, évidemment, au niveau de pression et de menace sur des hommes politiques ou des élus, mais ça doit forcément exister. Après, vous savez, avant qu'un élu marseillais, par exemple, puisse déposer plainte ou faire état de pression, il y a un petit chemin, des fois. Donc, ça peut, des pressions, elles ont aussi, au départ, elles sont assez silencieuses. Et puis, à un moment donné, on est...
C'est-à-dire qu'un élu qui irait porter plainte ou... il mettrait sa vie en danger ou qui irait révéler des choses, des méthodes
C'est-à-dire qu'en général, on préfère... Je pense qu'il y a certains, pas que des élus, mais je pense que parfois, on a plutôt l'impression que... Enfin, on a plutôt l'affect de tourner la tête pour ne pas voir ce qui se passe quelque part plutôt que d'aller l'affronter de visu. Parce qu'encore une fois, tout ça est dans une logique de terreur et d'affrontement, quoi.
Driss Aïtusef, on sait que le port du Havre avait été l'objet de... Et l'objet de tentatives d'entrisme de la part de ces réseaux ultra aux méthodes musclées, type ce qu'on vient de voir. Mais qu'est-ce qu'on peut faire quand on voit que même l'Amérique, qui est quand même connue pour avoir des méthodes musclées, ils n'arrivent pas à éradiquer ces trafics et ces gangs. Hein. Il faut parler de gangs, là, après, avec des méthodes...
Oui, bien sûr. Alors, effectivement, il n'y a pas que le Havre. Vous avez d'autres ports. Il y a eu une affaire il n'y a pas très longtemps. C'est tout récent. On a deux dockers qui ont été interpellés parce qu'effectivement, de connivence avec des trafiquants qui ont essayé effectivement d'aider les trafiquants à sortir une cargaison de cocaïne. Les ports à l'esprit, en Belgique, Rotterdam et Anvers, c'est 110 tonnes de cocaïne saisies versus, pour la France, 27 tonnes.
Ah oui.
Ça vous donne l'ampleur. La Mocro Mafia, c'était issu du Maroc. C'est beaucoup enrichi sur le trafic de cannabis au début. C'est-à-dire qu'ils ont fait beaucoup d'argent avec le trafic de cannabis. Quand je dis beaucoup d'argent, c'est beaucoup d'argent. Là, aujourd'hui, ils se sont mis dans le trafic de cocaïne. Et alors, ce qui fait la particularité de cette mafia, c'est à la fois d'être extrêmement fermée, d'être très puissante. S'il y en a un qui sort et qui parle, il y a des représailles immédiatement. Et surtout, d'être en connexion avec d'autres mafias. Et ce qui n'est pas le cas en France. C'est-à-dire qu'en fait, on a quelquefois des partenariats où on échange un peu de marchandises. Mais là, il y a quand même une synergie très forte. C'est-à-dire qu'en fait, l'autre fait la logistique, nous, enfin, on la revente, etc. Donc, il y a une synergie avec d'autres mafias qui est extrêmement forte.
Donc, la macromafia pour la cocaïne, elle est en synergie avec, elle est en collaboration avec les mafias.
La mafia italienne, albanaise, colombienne. Enfin, non, mais ça travaille beaucoup ensemble.
Parce que la coke, elle vient d'Amérique du Sud.
Bien sûr. Et ça travaille beaucoup ensemble. Et donc, la difficulté aujourd'hui, alors, le pouvoir néerlandais, mais beaucoup de moyens. C'est-à-dire, il y a beaucoup de moyens qui ont été développés. C'est pour ça que le trafic de cocaïne se déplace du port de Rotterdam vers le port d'Anvers. Ah. Et aujourd'hui, il y a quand même un appui, y compris européen, visant à accompagner les autorités belges à monter en puissance de sorte à essayer de passer au scanner tous les compteurs, ce qui va être extrêmement difficile, mais en tout cas être beaucoup plus offensif sur le trafic de cocaïne. Nous, on l'est. On a quand même un État, il faut le rappeler, même si on voit régulièrement des règlements de compte, on a quand même un État qui est extrêmement fort. On a une autorité judiciaire, lorsqu'elle passe, elle passe, elle s'est démantelée, ou c'est beaucoup plus compliqué dans d'autres pays. Parce qu'effectivement, ils ont amassé une telle fortune que c'est extrêmement compliqué.
Ça s'est enquisté. Ouais. Oui, Jean-Pierre, non.
Alors, je cherche l'exemple d'un État qui, dans l'histoire de l'humanité, a réussi à gagner sa guerre contre la drogue.
Malheureusement, il n'y en a aucun.
C'est pour ça, quand on parle de quelle est la solution, personne ne l'a. C'est une question un peu...
Alors, si le trafic de drogue est aussi puissant, c'est parce que derrière, vous l'avez dit en tout début d'émission, il y a aussi une consommation qui ne cesse d'augmenter. Et ce partout en France, regardez ce reportage à Limoges, où la consommation de cocaïne, je n'allais pas dire c'est banalisé, mais en tous les cas, est en forte hausse. Sujet de Baptiste Lécane.
Limoges, préfecture de la Haute-Vienne. Très loin de l'image que l'on se fait d'une ville gangrénée par la drogue. Pourtant, comme partout en France, la cocaïne y gagne du terrain.
Oui, en soirée, c'est vraiment quelque chose de régulier en réalité. Beaucoup plus régulier que ce qu'on peut penser.
Je le vois sortir sa carte bleue, je me dis mais qu'est-ce que tu fais? Et en fait, il s'est pris un rail de coke.
Les saisies de cette drogue par la police limougeaude ont bondi de 110% l'an dernier. Si la première consommation entre souvent dans un cadre festif, il peut être très rapide de sombrer.
Au début, voilà, c'est l'euphorie, on y prend, c'est bien, on est content, ça nous change la façon de penser, la façon d'agir, ça nous change beaucoup de nous. Et après, on ne peut plus faire face sans ça.
Son prix bas et la facilité à s'en procurer attirent vers la cocaïne, une drogue dite dure et addictive.
Quand on est dans la descente, on n'est pas bien, on est dépressif, on a des idées noires. On a certains qui ont envie de se suicider. Donc du coup, envie de reprendre pour pouvoir se ressentir beaucoup mieux.
Entre 2014 et 2020, la production mondiale aurait doublé. La France compterait, elle, 600 000 consommateurs de cocaïne.
Alors Damien Delceni, c'est la poule et l'œuf. C'est quand même parce qu'il y a une offre que la consommation est arrivée.
Oui, mais je pense qu'on se pose beaucoup de questions autour de cette table et depuis des jours et des semaines et même des mois et des années sur comment on agit sur la vente, sur les réseaux. On se pose un peu moins de questions sur comment on agit sur la consommation parce que vous pouvez faire tout ce que vous voulez contre les réseaux. Quand on dit que l'État ne fait rien, si l'État tous les jours, il démantèle des réseaux, il chope des cargaisons, il arrête des gens, il les met en prison, le lendemain, le trafic reprend. Pourquoi? Oui, parce qu'il y a des vendeurs, mais aussi parce qu'il y a des gens qui viennent dans la boutique pour acheter. Donc tant qu'on ne se pose pas la question collectivement de... On est le pays, probablement l'Europe est déjà un grand consommateur de stupes, mais on est en plus la France, un pays qui consomme beaucoup de stupéfiants, que ce soit du cannabis ou de la cocaïne. Donc tant qu'il y aura ce marché, tant qu'il y aura des gens pour se presser sur les points de vente et pour consommer... On pourra imaginer tout ce qu'on veut sur les techniques policières, les nouvelles lois.
Votre explication, alors, comment se fait-il que la France est l'un des pays les plus répressifs, en tous les cas, pour le cannabis, et soit l'un des pays champions pour la consommation?
Je pense que là, si j'avais les clés,
on sait pas.
Je serais président de la République. Mais il y a des
questions paradoxe,
sociales, il y a des questions de santé publique, il y a des questions d'habitude aussi. En France, on a eu, alors pour la résine de cannabis, pendant des années, on l'a appelé comme une drogue douce. Alors, plus personne n'emploie tellement ce terme aujourd'hui, mais ça a été une espèce de drogue un peu récréative. Donc, en consommer, finalement, c'était pas tellement dangereux, c'était pas mal. Aujourd'hui, ce qui est très bizarre, c'est qu'on est en plein dans le débat, parce que vous avez à avoir le débat maintenant de dire, alors comment on fait? Alors, on légalise ou on dépénalise? Parce que comme on n'y arrive pas.
Il y a des pays qui l'ont fait, l'Oregon, Chicago, alors, ont dépénalisé la consommation de cannabis.
Je suis incapable de vous dire le résultat de tout ça. Vous avez des gens qui vont vous dire de bonne foi, c'est formidable, ça fait baisser un peu la consommation, ça fait baisser la criminalité, et d'autres gens de même bonne foi qui vont vous dire c'est une catastrophe, la consommation a augmenté et maintenant on est face à un autre type de criminalité. Moi, honnêtement, je n'en sais rien. Par contre, ce que je vois, c'est que dans la même actualité de la semaine, on parle aussi des dégâts que fait la drogue au volant avec des drames routiers, humains.
Et encore la nuit dernière.
Donc, elle est évoquée en ce moment de se dire, bon, en gros, on va baisser les bras et on va dépénaliser, on va légaliser parce qu'on ne sait plus comment faire.
Dans les morts, il y avait l'alcool aussi, à 2,3 grammes. C'est légal depuis longtemps. Donc,
non, mais il y a l'alcool aussi. Mais c'est un débat curieux. Enfin, on a toujours ce débat-là et il est curieux dans le sens où c'est une forme aussi de démission. C'est-à-dire, comme on n'y arrive pas, il faut légaliser ou dépénaliser.
Drissa, tu savais, est-ce qu'on a un recul? On a décidé pour la consommation de drogue, on ne va plus en garde à vue. Enfin, il y a une amende maintenant. Oui. Alors, Éric Ciotti disait qu'elles sont très peu payées, ces amendes. Et est-ce que finalement, l'amende, je la paye, puis je continue, quoi. C'est comme quand je dépasse. Oui. Est-ce qu'on a un recul sur l'effet? Ça a eu très peu d'effet sur,
non,
apparemment.
C'est sûr que la consommation, ça a très peu d'effet. Mais l'amende, elle n'a pas pour objectif, la réalité, c'est que l'amende, elle n'a pas pour objectif de dissuader le consommateur de continuer à consommer, mais tout simplement pour désengorger les tribunaux. C'est ça l'amende aujourd'hui. Parce que quand vous passez devant le tribunal de police ou devant le tribunal de grande instance, vous allez rarement en prison, voire jamais en prison, parce que vous avez consommé du cannabis ou de la cocaïne. Donc il faut juste avoir ça à l'esprit. Sauf si vous êtes. Sauf si vous conduisez, vous avez commis un accident, etc. Donc l'amende, elle a pour objectif ça. Ensuite, on est sur un enjeu, non pas de sécurité publique, mais de santé publique, pour en tout cas les consommateurs. C'est un phénomène, il faut aussi l'admettre, qui est aussi générationnel. La plupart des consommateurs, ce sont aussi des jeunes. Donc il faut aussi s'intéresser aussi à la prévention des conduites addictives, aussi à l'école, les sensibiliser sur les ravages de le cannabis, c'est pas une drogue douce. Hein. La réalité, c'est que ça pète les neurones. La cocaïne, l'héroïne, le fentanyl. Aujourd'hui, vous avez une espèce de d'attirance pour ces drogues de synthèse. De plus en plus,
Justement, vous
consomment.
En parlez.
Donc
est-ce que c'est ce qui nous attend le vous avez évoqué le fentanyl. On le voit beaucoup aux États-Unis, qui transforme, on va voir des images d'Américains drogués au fentanyl. Donc c'est la drogue de synthèse ultra puissante qui vous transforme en zombie. Rassurez-nous, on n'a pas encore ça à la sortie de nos lycées.
Non.
Mais est-ce qu'on dit souvent que ce qui se passe aux États-Unis finit par traverser l'Atlantique? C'est ce qui nous pend au nez, c'est la prochaine génération de drogues de synthèse telles que le fentanyl?
Le fentanyl, c'est pas cher et c'est 50 fois plus puissant que l'héroïne. Et donc, une petite dose peut tuer un individu. C'est pour ça qu'on a quand même aux États-Unis des effets absolument désastreux du fentanyl. Je crois que c'est 100 000 morts en un an. C'est 60% des overdoses, c'est le fentanyl aux États-Unis. Ça cause des ravages, y compris sur le plan social. Ça déstructure des familles entières. C'est un vrai fléau, c'est drogue de synthèse. Il n'y a pas que le fentanyl comme drogue de synthèse, mais elle est considérée, en tout cas de loin, comme étant la drogue la plus dangereuse, la plus mortelle, en tout cas, des drogues de synthèse. Puis en plus, elle n'est pas chère. Donc,
elle est difficile à détecter parce que c'est de la chimie.
C'est de la chimie. Les produits viennent de Chine. Vous avez des produits à une tension entre les États-Unis, le Mexique et puis la Chine parce que c'est issu de produits de pharmaceutiques avec quoi on fabrique effectivement cette drogue de synthèse. Et donc, ça cause des ravages absolument désastreux aux États-Unis.
Jérôme Piara, peut-être plutôt. C'est vrai qu'on a fait 80% de l'émission sur les réseaux, mais il faudrait peut-être davantage insister sur les consommateurs. Et faire en sorte que là, il y ait moins de demandes.
La question est un peu vertigineuse, parce qu'on se demande pourquoi ils consomment, dans quelle société on vit, est-ce qu'il ne faut pas changer notre mode de vie, notre société, est-ce qu'elle est trop anxiogène, stressante? J'en sais rien, pourquoi ces gens ont besoin de se droguer, absolument.
Alors, ou
de
boire,
ou d'avoir des produits. Voilà, donc,
il y a tout un marketing de la drogue, c'est cool, ça, qui est associé
à
des comportements de transgressifs.
Oui, après, on n'est plus dans la sous-culture des années 60-70, donc pourquoi les gens continuent pourquoi il y a une augmentation? Ok, il y a du produit, il y a une offre, mais Mais voilà, qu'est-ce qui pousse les gens à aller chercher ces produits? Alors ça, ça devient un débat
philosophique. Et ces drogues de synthèse, on ne les voit pas encore en Europe. Et je dis encore...
Alors, c'est marrant parce que les drogues de synthèse, nous, en Europe, on nous alerte dessus quand même depuis les extasies des années 90, etc., où on nous vend à chaque fois que ça va quand même exploser. Ouais. Pour l'instant, on a une espèce de plafond de verre depuis des années concernant ces drogues de synthèse qui se renouvellent, qui changent, les molécules sont, varient.
Et on n'a pas encore ce phénomène fontanil américain.
Pour l'instant, on n'a pas. Alors, je ne vais pas vous dire que c'est être trop optimiste, mais pour l'instant, le marché des drogues de synthèse en France a toujours été assez limité.
Ben merci beaucoup d'être venu nous aider à comprendre et à décrypter ce marché qui malheureusement génère avec lui de la violence, des fusillades et des morts et qui pourrit notre jeunesse. Vous restez sur France Info. On se retrouve demain pour un nouvel Info C'est Clair. Bonne journée et à demain.